Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Aujourd'hui, je cause avec Léa Thomassin, cofondatrice et présidente d'Allo Asso, première solution de paiement gratuite des clubs et des associations françaises. Depuis 12 ans, Allo Asso a collecté près de 400 millions d'euros auprès de plusieurs millions de donateurs au profit de 150 000 associations bénéficiaires et elle compte près de 70 collaborateurs. Je suis particulièrement reconnaissante et heureuse de vous partager cet échange car Allo Asso a été ma première expérience dans l'ESS il y a plus de 10 ans. On était 4 à l'époque et j'étais déjà très admirative de ce business model unique et novateur. L'entreprise se finance exclusivement sur les participations laissées par les donateurs pour le fonctionnement de la plateforme. Léa nous raconte toute l'aventure, la recherche et les actions mises en place pour trouver une manière pérenne de se développer, l'importance donnée à l'écoute des associations. Pas moins de 25 personnes dans l'équipe sont dédiées au support et tous les collaborateurs passent régulièrement quelques heures avec cette équipe support pour discuter avec les associations, entendre leurs problématiques et ainsi toujours garder le lien à la réalité du terrain. Et puis on a aussi parlé d'activation, donc un terme très marketing pour ceux d'entre vous qui connaissent, parce que du fait que la solution est gratuite, c'est un vrai sujet pour eux et je suis sûre que ça va en aider plus d'un parmi vous. Allo Asso, c'est objectivement une des entreprises françaises que j'admire le plus. Tout comme Léa Thomassin est une des femmes entrepreneurs qui m'inspire le plus et je suis sûre que ça va être le cas pour vous. Étant cofondatrice de la Fondation des Femmes, je ne voulais pas finir cet échange sans évoquer ce sujet, donc on en parle en toute fin d'épisode. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux que Léa nous partage. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un avis et à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur Apple Podcasts, si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Salut Léa, merci beaucoup d'être là aujourd'hui dans Business Positif.
Bonjour Mélodie, avec plaisir.
Moi, je suis trop contente de te recevoir parce que pour la petite histoire, ma première expérience ESS, c'était avec Allo Asso il y a, je crois, 10 ans en fait.
10 ans déjà, ouais.
Ouais, donc c'est trop bien d'avoir déjà suivi évidemment toute l'aventure que tu vas nous raconter aujourd'hui. Et puis de pouvoir échanger avec toi 10 ans après sur toute cette évolution qui est assez folle. Est-ce que tu peux déjà nous resituer un petit peu le secteur d'Allo Asso et son action auprès des associations ?
Oui, complètement. Alors la mission d'Allo Asso, c'est d'accompagner les associations dans leur transition numérique. Donc on a lancé le projet en 2009, donc avec mon associé Ismaël, et on avait identifié donc deux choses. D'une part, on a en France un secteur associatif qui est très puissant. Il y a plus de 1,5 million d'associations. Il faut savoir qu'on est les champions européens de l'associatif. Il y a énormément d'associations qui agissent sur plein de thématiques très variées. Ça va de la culture, bien sûr, des loisirs, du sport, de l'action sociale, de l'action citoyenne, de la défense des droits. On a vraiment un tissu associatif qui représente une diversité d'intérêts et de thématiques. Et donc, on avait l'un et l'autre eu des expériences dans ces associations dans notre jeunesse. Et le deuxième point, c'est qu'on identifiait dans le numérique, donc en 2009 à l'époque, une vraie opportunité pour aider ces associations à se faire connaître, d'une part, parce qu'on trouvait qu'elles étaient assez peu connues et reconnues. Donc c'est aussi ce qui nous a motivés, et que le numérique pouvait aussi les aider à se financer. Donc à pouvoir fédérer plus de personnes autour d'elles, de pouvoir les faire donner, participer à leurs actions, et que ça pouvait représenter du coup un levier de développement assez fort pour le tissu associatif.
Et vous étiez assez pionnier au final à l'époque, parce qu'il y a 10 ans, c'était quand même un sujet très jeune pour le monde associatif, le fait de numériser leurs outils.
Bah complètement, c'est vrai qu'en 2009, le numérique pour beaucoup de structures, on en était encore au début, et c'est vrai que dans les associations d'autant plus, parce que les entreprises ont mis en place des formations à destination de leurs collaborateurs, des plans d'équipement, et petit à petit ont transformé leurs activités avec le digital. Dans les associations, on est sur un public qui est essentiellement bénévole, donc il n'a pas pu bénéficier de tout cet accompagnement un peu réservé au corporate, et donc le numérique c'est encore effectivement très balbutiant à ce moment-là dans les associations. Et donc très rapidement on a choisi de se concentrer sur la partie financière, parce que c'est le nerf de la guerre pour les assos, c'est-à-dire que sans argent c'est très compliqué de mettre en place leur projet. Et donc on a développé des solutions de paiement à destination spécifiquement des associations. On a commencé par développer des outils de dons en ligne, donc pour leur permettre de pouvoir recueillir des dons sur internet, et c'est vrai que ça permet de faciliter beaucoup cette action. Il faut se rappeler qu'avant la générosité c'était l'envoi d'un chèque en fin d'année à des grandes ONG qui avaient pignon sur rue, et qu'en fait le digital a permis de démocratiser en fait toute cette collecte de fonds et de la rendre accessible aussi à des petits projets qui ont pu se faire connaître, notamment grâce au financement participatif, le crowdfunding, qui a encouragé beaucoup d'acteurs à eux aussi se tourner vers le public, vers leur communauté pour financer des nouveaux projets.
Et ce qui est génial aussi, que j'aimerais bien qu'on aborde dès maintenant, c'est ce modèle économique que vous avez pensé dès le début du pourboire, qui était quand même hyper, hyper courageux, je trouve, au-delà d'être innovant, de parier là-dessus et du fait que ça pouvait marcher. Et c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, alors c'est effectivement, on est parti dès le début sur ce modèle un petit peu atypique. À l'époque, on nous a dit qu'on était un petit peu fou de se lancer comme ça. Donc concrètement, on ne prend pas de commission sur les paiements qui sont gérés par Hello Asso. Il n'y a pas non plus de frais d'inscription pour les associations. Et on va, au lieu de ça, proposer aux personnes qui vont contribuer à une association s'ils souhaitent en plus verser donc une contribution volontaire pour Hello Asso, ce qu'on appelait avant un pourboire et qu'on a renommé contribution volontaire. Et donc quand on a démarré, on avait pour inspiration des modèles aux États-Unis qui se basent sur ce système, donc qui s'appelle aux États-Unis tip based ou pay as you want, donc on paye ce qu'on veut pour le service. Et on avait été assez interpellés, on trouvait que ça avait pas mal de sens vis-à-vis du public associatif. On aimait l'idée de pouvoir laisser le choix aux contributeurs, de pouvoir rétribuer le service selon la valeur aussi que ça lui apporte. Et on était aussi attachés à la transparence du modèle. Il y avait à ce moment-là aussi l'émergence de beaucoup de plateformes d'économie collaborative qui avaient toutes choisi le même modèle économique qui consiste à ponctionner une commission, et on ne se reconnaissait pas tout à fait dans cette approche. Et aujourd'hui, c'est effectivement un modèle qui a fait ses preuves. On a 60% des personnes qui font un paiement sur Hello Asso qui choisissent de laisser en plus donc une contribution volontaire pour faire vivre la plateforme, pour développer nos outils, pour pouvoir accompagner les associations. Et c'est là notre unique source de revenus.
C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre unique source de revenus. Vous avez réussi à... Parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit passage par le B2B à un moment donné pour pouvoir permettre à l'entreprise de se développer. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe.
Oui, oui, non, tout à fait, tu as raison. Tu connais le projet aussi bien que moi.
Non, pas aussi bien.
Depuis le début. Et oui, effectivement, en fait, le modèle de la contribution volontaire fonctionne dès lors qu'il y a un très grand volume de transactions, puisqu'il faut savoir que le don moyen qui va être versé à Hello Asso par les contributeurs, il est de l'ordre de 2 euros. Donc, on est sur des tout petits oui. revenus à chaque transaction. Donc, ça n'a pas suffi pour développer l'entreprise et pour arriver jusqu'ici. Donc, on a choisi effectivement pendant près de 3 ans de travailler pour des entreprises et notamment des fondations d'entreprises et pouvoir leur développer des plateformes numériques autour de leurs engagements solidaires, autour des associations qu'elles soutenaient. Ça pouvait être par exemple des plateformes de vote pour la fondation EDF qui lançait ses trophées des associations. Et ça nous a permis de pouvoir générer du chiffre d'affaires, de payer les salaires, en attendant que la plateforme Hello Asso avec ses associations et les transactions se développe suffisamment pour pouvoir nous permettre de vivre uniquement sur le modèle de la contribution volontaire.
Et tu vas nous dire un peu plus tard comment vous avez fait ça, justement, au fur et à mesure des années, de réussir à ce que ce passage, cette transition se fasse. Je veux bien, avant que tu reviennes un peu sur toi et sur toi, ta motivation à toi, qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée dans cette aventure Helloasso il y a 10 ans, que tu y es encore 10 ans après? Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement dans ce secteur associatif?
Ah, vaste question. Moi, assez jeune, et notamment au lycée, j'ai été assez frappée par un prof qui nous a parlé de développement durable. Donc, à ce moment-là, on est en 2003. Hein, donc, bien que j'irais, la problématique du réchauffement climatique a été connue et décrite dès les années 80, en 2003, on n'en parle encore pas beaucoup. Il
C'est
y avait
clair.
peu de sensibilisation sur ce sujet-là. Et j'ai un souvenir très marquant de ce cours où ce prof nous en a parlé. Et là, je me suis dit, tiens, ça résonne. Il parlait à l'époque de développement soutenable, de se dire bah, comment on peut imaginer des entreprises au sens large, qui soit justement respectueuse de la planète, mais aussi des humains, qui soit attentive à l'impact social qu'elles ont. Donc ça a pas mal résonné. Après, j'ai eu des expériences, moi, plutôt dans l'associatif, dans des ONG notamment. Je me suis passionnée pour toutes les problématiques liées aux droits de l'homme. J'ai hésité à reprendre à ce moment-là des études de droit pour pouvoir travailler justement spécifiquement là-dessus, mais j'étais un petit peu frustrée parce que je trouvais que c'était voilà, des actions assez laborieuses, en fait, qui prennent beaucoup de temps. Donc, je travaillais dans une ONG asiatique, notamment sur des sujets de plaidoyer pour les droits de l'homme. Et on mettait énormément d'énergie à faire des rapports. On avait ensuite un rapporteur à l'ONU. Et au final, pour un impact qui tardait à venir, en tout cas que je ne trouvais pas suffisant au regard de l'énergie qu'on avait mis sur le
Oui,
sujet.
dépenser.
Voilà, donc j'ai souhaité ensuite voir comment avoir une approche peut-être plus micro quelque part, mais qui pouvait avoir un impact aussi plus rapide. Et j'étais assez convaincue que les entreprises avaient un rôle à jouer sur le sujet. Donc j'ai travaillé sur les partenariats entre les entreprises et les associations, sur le développement de tout ce qui est mécénat, fondation d'entreprise, et ça au sein d'un espace de coworking dédié à l'entrepreneuriat social à Paris,
Ouais.
La Ruche. Et puis après, le début de Helloasso, c'était voilà, l'histoire d'une rencontre aussi donc avec Ismaël et Bruno à l'époque, qui étaient assez pionniers à ce moment-là sur ces questions bah, d'entreprise sociale, de comment on peut voilà, monter un projet qui a pour objectif d'avoir un impact social et qui utilise bah, je dirais, le levier économique et la forme d'entreprise pour y arriver. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né le projet, donc qui s'appelait Mail for Good à l'époque et qui est
Ouais.
devenu Helloasso. Et pour moi, c'est aujourd'hui, je dirais, la motivation tient au fait que dans les associations, je trouve que c'est un des rares endroits où prime l'intérêt collectif. Je pense qu'on est dans une société qui est de plus en plus individuelle, individualisée, et je trouve qu'on gagne à se connaître, qu'on gagne à
Ouais.
faire des projets ensemble et qu'on gagne à pouvoir mettre notre énergie au service voilà, de projets qui nous dépassent tous un petit peu. Et je participe encore aujourd'hui à beaucoup de projets associatifs et je suis assez frappée de voir comment bah, l'objet social d'une association peut en fait prendre le pas sur bah, nos intérêts propres à chacun. À chacune en l'occurrence, parce que je fais référence au projet de la Fondation des femmes dans lequel je
Ah
m'investis
bah j'allais
depuis
t'en venir.
5 ans.
Ouais, je veux bien qu'on en parle après aussi.
Et oui, et c'est en fait, c'est des logiques et des approches qui continuent à me fasciner parce qu'on arrive du coup à soulever des montagnes, à faire des trucs formidables. Et ce qui nous rassemble et ce qui va canaliser toute cette énergie, bah, c'est une cause, c'est un projet, c'est quelque chose dont on ne retire pas de bénéfice, si ce n'est forcément parce que je pense qu'on en a toujours la satisfaction de pouvoir
De
contribuer à ça.
contribuer.
Et donc, je suis toujours voilà, complètement fascinée par ces dynamiques et j'ai envie de pouvoir accompagner ces acteurs. Et là-dessus, je pense que le numérique est un super pouvoir. C'est un outil qui est hyper puissant et on voit qu'il se développe voilà, énormément de projets numériques. Il y a beaucoup de projets qui sont très mercantiles. Hein. On voit aujourd'hui Internet, c'est aussi un grand supermarché en ligne. Et je pense qu'on on a tout à gagner à mettre ce super pouvoir entre les mains des acteurs qui font l'intérêt général. Oui. Et je pense qu'on en est qu'au début. C'est-à-dire que plus les acteurs de l'intérêt général, là aussi au sens large, vont être outillés, vont être équipés, vont s'approprier ces outils-là, plus leur impact aussi va être multiplié.
Donc, oui, parce que ça peut... Ça, forcément, ça me fait penser aussi à tout ce mouvement des entreprises à mission, B Corp, le monde de l'entreprise qui a réalisé son rôle ou qui en tout cas commence à s'emparer de ces sujets-là. Et du coup, ça fait aussi sens avec ce que tu dis, non ? Parce que donc, du coup, vous êtes dédié aux associations, mais il y a aussi une mouvance qui est en train d'arriver pour justement remettre du sens et remettre l'intérêt général au cœur plutôt que l'intérêt individuel. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez ? Et vous, par rapport à ça, justement, en tant qu'LOSO, donc cette fois l'entreprise, tu penses quoi de toute cette, de tout ça, de l'entreprise à mission, B Corp ? Est-ce que vous faites les démarches ?
Alors, on n'a pas fait les démarches pour être B Corp. LOSO, aujourd'hui, nous, on a l'agrément ESUS, donc entreprise d'utilité sociale, et donc qui va justement garantir, gérer un certain nombre de principes d'organisation, des principes de rémunération, des principes de redistribution aussi des bénéfices, de gouvernance partagée, en tout cas qui vient aussi gérer au-delà du modèle économique, de l'impact qu'on va avoir, va porter gérer une attention, un regard sur le comment on le fait. Et je pense que c'est aussi hyper important aujourd'hui que dans la façon de faire, au-delà du quoi, les entreprises s'interrogent sur le comment. Parce que je dis souvent, en fait, changer le monde, ça commence par changer la vie des personnes qu'on voit au quotidien. Et c'est vrai que tous ces enjeux voilà, liés au bien-être au travail, à la manière dont on va fonctionner en tant qu'équipe, sont pour nous aussi primordiales, parce que je pense que ça commence par là. Et après, moi, je regarde plutôt avec beaucoup d'optimisme tout ce qui est en train de se passer au niveau des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de se transformer. Après, je fais encore le distinguo entre, et je trouve que ça joue pour beaucoup, c'est quelle est la motivation, quelle est la finalité de l'entreprise. Et l'entrepreneuriat social, c'est typiquement voilà, des personnes qui ont créé une initiative économique qui est avant tout au service de la résolution d'un problème social et environnemental. Et l'aspect économique du business, c'est le moyen et pas la fin. Je pense que pour des entreprises qui ne se sont pas lancées avec cette approche, avec cette motivation initiale, ça reste compliqué de mener une transformation jusqu'au bout, parce qu'avant tout, l'entreprise a été lancée pour générer des bénéfices pour ses actionnaires. Oui. Donc après, on en voit qui y vont, et je trouve ça très bien. Et surtout, ce que je trouve d'autant plus positif, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent avec vraiment cette motivation de départ qui est... de résoudre
un problème. Intrinsèquement positif, c'est clair. Oui, il y a vraiment deux dynamiques. Il y a cette dynamique de transformation, et là, il y a ce que tu disais, avec plein d'enjeux humains aussi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas été recrutés à la base avec cette dimension. Donc, comment ils font aussi pour s'adapter au fait qu'aujourd'hui, on va leur demander de prendre en compte d'autres choses qui peuvent paraître comme étant des contraintes, là où ceux qui se lancent dans l'impact positif, au final, voient ça comme une opportunité, voient ça comme une opportunité dans le sens, c'est pas forcément que business, dans l'opportunité de faire autrement, en fait. Il y a quelque chose de très excitant aussi dans tout ça, j'ai l'impression.
Oui, complètement. Et où les valeurs, l'impact vont être très porteurs, en fait, du projet, plus que d'être perçus comme des contraintes. Donc, il y a vraiment ces deux dynamiques qui se rencontrent, qui se nourrissent. Et c'est très bien. Et après, de plus en plus d'entreprises se lancent sous forme d'entreprises sociales, justement pour intégrer, tous ces éléments d'impact, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, dans les valeurs, dans l'ADN de l'entreprise dès le début.
Oui.
Et qui vont ensuite conditionner pas mal de choses sur le comment.
Oui. Et du coup, c'est pour ça, parce que le comment, du coup, c'est hyper inspirant de regarder le parcours d'LOSO jusque-là. Donc, justement, comment vous avez fait ? C'est-à-dire qu'il y a l'idée, il y a eu les tests et puis le lancement. Quand moi, j'étais là il y a 10 ans, on était 5 ou 6. Il y avait quelques centaines d'associations et puis 2000 quand je suis partie. Il y en a plus de 135 000, 150 000 aujourd'hui.
150 000 aujourd'hui, oui.
Donc du coup, il y a 60, enfin je sais plus combien de collaborateurs, je veux pas dire de bêtises, mais c'était 50 ou 70, ça a bougé.
Oui, près de 75.
Ah voilà, donc c'était bien dans les 70. Mmh. Donc comment ça s'est passé toute cette évolution? Est-ce que tu peux me dire s'il y a eu des grandes étapes de vie qui vous ont permis d'accélérer, si c'était ça d'ailleurs la recherche? C'était quoi un petit peu la vision? C'était quoi les étapes de développement pour cette entreprise? Et puis les actions, le comment?
Oui. Alors sur les étapes de développement, moi, quand je regarde là, les 11 années, 12 années maintenant, qui se sont écoulées depuis la création d'Hello Asso, il y a eu, je dirais, 4 phases. Et on a à peu près des phases qui durent toujours 2-3 ans. Okay. La première est celle que j'appelle la traversée du désert. Donc, c'est vraiment les 3 premières années. Et je pense que tu es arrivée vers la fin de cette phase-là. Donc, vous commencez à voir la lumière. Mais en tout cas, sur le début, j'ai le souvenir que c'était très difficile, qu'on cherchait justement à développer le premier produit. On s'est heurté aussi à beaucoup de difficultés, qu'elles soient techniques ou commerciales, pour pouvoir promouvoir ce produit. On a testé pas mal de choses, beaucoup de choses qui n'ont pas marché. On a changé d'idée, on a testé de nouvelles choses. Et vers la fin de cette phase-là, on a commencé véritablement à faire des outils de paiement en ligne. Et donc ensuite, on a eu une première phase de développement. Donc on est à peu près à ce moment-là en 2013, où on a véritablement sorti un produit qui a plu aux associations. Oui. Et ces premiers utilisateurs, en fait, ont été décisifs à plein d'égards. Parce qu'ils nous ont permis d'apprendre énormément, ils nous ont permis aussi d'orienter les futurs développements, de nous imprégner un peu de quels étaient les besoins, comment on pouvait les aider. Et à ce moment-là, on était, toi et moi notamment, assez proches de toutes ces associations. On échangeait beaucoup avec elles, et ce qui a apporté énormément aussi d'insight sur la suite.
Oui, de richesse sur leurs besoins, et c'est clair.
Voilà. Et à ce moment-là, on est quand même dans une pénurie de moyens techniques aussi, avec une toute petite équipe technique, avec le sentiment d'assembler un petit peu des bouts de ficelle, de bricoler encore. Ça fait partie des enjeux de cette phase initiale de développement, et qui mine de rien a été très exaltante, et qui correspond aussi au moment où on a choisi d'emménager à Bordeaux. On a pu à ce moment-là faire une levée de fonds aussi de 1 million d'euros, la première, et qui a permis ensuite de pouvoir renforcer l'équipe. On avait 2 développeurs à l'époque, et justement se donner les moyens d'aller plus loin. On a eu ensuite une phase de consolidation, de pérennisation de l'entreprise, et c'est tout le carrefour qu'on a pu faire sur le B2B dont on parlait tout à l'heure, qui a été salutaire en termes de chiffre d'affaires et d'un point de vue économique pour Hello Asso, et qui nous a également permis d'apprendre énormément, et là aussi de se professionnaliser en travaillant au contact de très grands groupes. On a notamment, je le disais, travaillé pour EDF, mais aussi pour Orange, pour Google, avec Facebook. Et à ce moment-là, ça a été aussi beaucoup d'apprentissage d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel, et qui nous a permis de tirer aussi des enseignements.
Est-ce que tu aurais un petit exemple de concrètement dans cette phase-là, donc cette deuxième phase, ce que vous avez pu mettre en place justement avec une de ces entreprises? C'est-à-dire comment vous avez utilisé votre entreprise et votre mission dans ce cadre-là?
Oui, alors c'est un exemple, c'est peut-être celui qui est le plus original de surcroît. On a développé avec pour Orange une plateforme de crowdfunding en Côte d'Ivoire. S'appelait Orange Collect, et qui avait la particularité de ne pas se baser sur du paiement sur Internet, mais vraiment du paiement par téléphone. Ils utilisent beaucoup là-bas ce qu'on appelle l'USSD. Donc ça va nous ramener un petit peu dans le passé, mais c'est quand on tape sur les touches de son téléphone /123, par exemple, et que ça va exécuter ensuite un code, et donc du coup ça va générer en fait aussi un appel à un serveur. Mais c'est vraiment low-tech. Ça a été assez instructif, parce qu'on a réinventé quelque part notre métier à l'aune de cette technologie qui était très légère, qui était utilisée par les Ivoiriens. Et surtout, on a fait là-bas aussi des formations à la collecte auprès d'acteurs voilà, qui sont très, très différents, d'associations aussi en Côte d'Ivoire. Et on a pu, du coup, moi j'y étais 4-5 fois, on a une personne de notre équipe qui a travaillé là-bas. Et donc, ça a été une expérience voilà, très, très riche d'apprentissage. Et dans le travail avec Orange, et notamment c'était porté par Orange France, et dans le travail avec l'équipe Orange en Côte d'Ivoire aussi, donc on s'est régalé sur ce type de projet et ça n'avait, et pour le coup bah voilà, on a pu réutiliser ce qu'on savait faire et ce qu'on avait fait en France, mais toutefois de l'adapter à une population, à des bénéficiaires, à une technologie qui était complètement différente, et quelque part on en a retiré aussi pas mal de choses même pour la France, parce qu'on a été obligé de revoir notre approche, notamment d'accompagnement, de comment on fait des mobilisations sur des collectes. Là-bas, c'était beaucoup plus dans la vie réelle. Donc, c'était de mettre à disposition bah, voilà, des affiches, les événements, etc. Donc, on a aussi pu en tirer des choses qu'on a répliquées ensuite en France.
Ok, génial. Oui, donc du coup, à chaque fois, il y a eu des apprentissages aussi tirés.
Mmh, complètement.
Très clair. Et ça vous a permis aussi, j'imagine, de nouer un peu un écosystème, un tissu un peu différent de ce que vous aviez jusque-là, parce que qu'est-ce qui faisait qu'un Orange, par exemple, il partait avec vous pour créer son crowdfunding? Est-ce que vous arriviez à... C'était vraiment le fait d'être en lien avec le secteur associatif qui fait qu'il vous faisait confiance?
Oui, et puis on était parmi les pionniers à développer une plateforme de crowdfunding. Oui. Donc c'est aussi, je dirais, le caractère innovant de cet usage-là qui les a interpellés. Et après, Orange, comme pas mal d'entreprises de la tech, se reconnaissait aussi dans le message qu'on porte, qui est bah, mettons le numérique au service de l'intérêt général, au service de la résolution de problèmes de société. On avait d'ailleurs créé à cette époque-là un événement qui s'appelait la Social Good Week. Oui. Et qui visait justement à fédérer tous les acteurs qui développaient des initiatives où la technologie est mise véritablement au service voilà, du bien commun et de l'impact social. Et donc, dans le cadre aussi de sa politique RSE et de son souhait, comme on le disait tout à l'heure, bah, d'évoluer vers voilà, des secteurs d'activité ou des projets qui ont davantage d'impact social, c'est aussi ça qui a interpellé Orange et qui les a amenés à tisser ce partenariat avec nous.
Oui. Ok, très clair. Et donc, du coup, on arrive sur cette phase 2 de développement, et puis de développement donc B2B, qui permet à l'entreprise aussi de se pérenniser et d'être... c'est un vrai pilier où...
Oui, et ça a été vraiment une phase aussi de consolidation, je dirais, bah, financière d'une part avec cette activité B2B, consolidation aussi du produit, des outils de paiement qu'on avait développés pour les associations. Donc à ce moment-là, on fait évoluer aussi beaucoup nos technologies pour avoir une solution plus stable, plus professionnel à proposer aux assos. C'est aussi un moment où chaque année, entre 2013 et 2017, tous les ans, le nombre d'associations sur la plateforme double et le volume collecté sur la plateforme double également. Donc on est aussi dans une phase d'accélération assez forte sur les bénéficiaires de nos outils. Et là, la particularité, c'est qu'on se développe uniquement sur du bouche à oreille, ou bien des actions comme celle que je décrivais avec la Social Good Week, de prise d'événementiel, de prise de parole au sein de l'écosystème, de prise de parole en presse. Mais en tout cas, on a à ce moment-là pas de budget à consacrer au marketing ou à la communication. Donc, c'est vraiment nos utilisateurs et l'écosystème élargi que la solution Eloasso se diffuse, se fait connaître et petit à petit, beaucoup plus d'associations s'en empare.
Ouais.
Et à ce moment-là, donc on arrive en 2017 et on se dit, on voit que on a un produit qui plaît énormément aux associations, une approche aussi qui leur plaît beaucoup, puisque on décide dès 2015, en parallèle des outils et de la plateforme technique, de développer toute une activité de formation et d'accompagnement. En fait, on identifie que les outils seuls, ça ne suffit pas, que pour beaucoup d'associations, il y a un enjeu d'appropriation du numérique, du digital, pour véritablement pouvoir s'en saisir et le mettre à profit de son projet. Et donc là, on a testé aussi pas mal de choses Au début, okay. On a fait une formation en ligne, donc un MOOC, mais de la même manière, on s'est rendu compte que bah, pour certains publics associatifs, bah, rien que trouver le MOOC en ligne, etc.
Oui, c'est ça, c'était trop loin, c'était voilà, déjà trop loin. Quoi.
Une marche un peu trop haute. Donc, on a fait un tour de France et on a réalisé pendant un mois 25 formations, donc dans 25 villes. Okay. Et on a été un peu stupéfaits parce qu'on arrivait dans des endroits où on était relativement peu connus et il y avait 300 associations dans la salle. Qui venaient bah, se former et en tout cas appréhender un peu le numérique. Et donc on s'est dit, bah, en fait, il y a un vrai besoin sur la formation, sur l'accompagnement. Nous, tout seuls, avec nos petits bras, on ne va pas y arriver. Donc, c'est là où on a mis en place une nouvelle approche qui était de former quelque part des formateurs. Donc, on a lancé tout un programme qui s'appelait les experts et l'OASO pour avoir bah, partout sur le territoire aussi bah, des personnes qui étaient en capacité d'accompagner les associations dans leur prise en main du numérique. Et aujourd'hui, ce programme est encore plus loin. On l'a maintenant repensé collectivement donc avec le mouvement associatif et la Fonda. Et c'est un programme qui s'appelle les points d'appui au numérique associatif. Et il y a aujourd'hui un peu plus de 350 points d'appui donc, qui ont été accompagnés sur le numérique, qui peuvent être des maisons des associations, des caisses régionales d'économie sociale et solidaire, des têtes de réseau associatifs, enfin tous les acteurs qui accompagnent sur le territoire les associations. Et bah, nous, la mission qu'on s'est fixée avec ce programme, c'est de les accompagner eux sur le digital, qu'ils soient en capacité demain d'orienter des associations qui vont les solliciter et quelque part de contribuer bah, à la création et gérer la montée en compétences numériques de tout cet écosystème qui est autour des associations.
Donc du coup, en fait, vous êtes un peu des passeurs de savoir. C'est au lieu que ce soit des experts LOASO, au final, vous venez transmettre à ceux qui sont déjà en contact avec toutes les associations de leur secteur. Donc c'est aussi une manière de reterritorialiser tout ça, quoi.
Exactement. Et c'est un très joli terme, passeur de savoir. Et effectivement, toutes les associations et la particularité du secteur associatif, c'est aussi d'être très fédéré. Il y a beaucoup de réseaux qui rassemblent les associations, que ce soit par thématique, mais aussi par lieu d'implantation. Et donc, on a cherché à pouvoir bah, collectivement, là aussi, avec plusieurs partenaires, pouvoir bah, introduire le numérique, être en appui de tous ces acteurs-là sur la prise en main de ces outils, et donc comprendre aussi bah, quels sont les bénéfices, quels sont peut-être aussi les points d'attention à avoir quand on se lance sur Internet. Et comme ça, ça permet aussi bah, de décupler hein, quelque part ce savoir pour qu'il puisse être rendu accessible à un grand nombre d'associations.
Génial. Et est-ce que j'ai une question qui me vient et du fait en fait du modèle, parce que bah, je me rappelle des moments ou des mois que j'avais passé avec vous où il y avait un vrai sujet autour de l'activation, du fait que le service était gratuit. En fait, il y avait toujours ce truc de « Ah bah, je peux l'installer gratuitement et puis au final, bah, c'est pas grave, si je l'utilise pas, j'ai pas payé. » Et du coup, je me rappelle que c'était un sujet qu'on évoquait un petit peu, alors qu'il était à petite échelle, donc c'était pas très grave. Mais je me demande un peu comment vous abordez cette question-là de l'activation quand vous avez 150 000 associations.
Oui, très bonne question. C'est toujours un sujet.
Ok.
On a bah, le service est gratuit. Les assos peuvent s'inscrire, peuvent voilà faire un tour dans le back office, découvrir les outils, et rien ne les oblige ou ne les engage à les utiliser. Donc on a, on aura toujours beaucoup comme ça d'associations qui s'inscrivent et qui ne nous utiliseront pas. Et après, là aussi, on a cherché à voir bah, comment on peut aider les associations à s'en saisir. Donc, on a mis en place beaucoup d'actions autour de ça. Et la principale, c'est qu'aujourd'hui, on prend contact avec les associations qui s'inscrivent. On a une équipe qui est vraiment dédiée à souhaiter la bienvenue aux associations sur LOASO et qui va pouvoir les appeler le lendemain de leur inscription et identifier avec elles bah, quel est le besoin qui les a menés à nous et comment on peut les accompagner aussi à mettre en place leurs différents projets sur la plateforme. Ouais.
C'est génial parce que vous avez remis de l'humain au final dans une entreprise qui amène un service tech. Vous avez remis de l'humain parce que oui, il y a pas mal de personnes même qui sont dans ce département, non ?
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment les deux activités qu'on porte, c'est qu'on développe des outils numériques et on accompagne les associations. Et effectivement, on a 25 personnes dans notre équipe tech. On a 25 personnes qui accompagnent les associations au quotidien. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a investi très fortement. Et aujourd'hui, on a voilà, beaucoup et à Bordeaux, là où est le siège d'Elo Asso, et aussi sur le terrain. On a ouvert des antennes territoriales et l'accompagnement fait vraiment partie de notre ADN. Les associations sont très surprises, très agréablement surprises d'ailleurs, en nous disant « Mais attendez, vous êtes une plateforme web, vous êtes gratuit et pourtant vous m'appelez pour savoir si j'ai besoin d'aide. » Et on voit qu'aujourd'hui, de par l'expérience aussi qu'a acquise l'équipe qui est en contact avec les associations, parfois il s'agit de 10, 15, 20 minutes au téléphone qui vont permettre de débloquer en fait l'association sur le sujet, qui vont permettre de l'orienter et donc en fait c'est très très important. Parfois on va être en interaction avec des associations où on va vraiment ressentir une fracture numérique très forte. Là l'équipe me témoignait des questions qu'ils peuvent avoir, c'est ok, mais je comprends, mais c'est quoi la différence en fait entre une URL et une adresse mail? Donc, on a aussi des publics où il y a ce niveau de méconnaissance et auquel cas, c'est là où on crée des ponts entre nos différentes activités, qui est qu'on va les orienter justement vers les points d'appui au numérique associatif pour que des personnes puissent les accompagner, gérer en profondeur. Parce que pour le coup, là, par téléphone, ça ne va pas être suffisant. Il faut quelqu'un vraiment qui va accompagner l'association derrière son ordinateur pour l'aider à prendre en main tout ça. Mais en tout cas, l'accompagnement aujourd'hui, c'est une très grande activité d'Elo Asso. Pour donner un ordre d'idée, ça représente à peu près 15 000 contacts avec les associations tous les mois. Donc pour notre équipe, que ce soit par téléphone, par email, on a également mis en place aussi un chat en ligne et contrairement à beaucoup de boîtes qui vont suivre le temps de vérifier c'est quoi
ils ne passent pas plus de 10 minutes par
exactement, nous par on contact, dit à l'équipe, en tout cas la consigne c'est on prend le temps nécessaire pour pouvoir accompagner les associations, et ça aussi c'est quelque chose qui fait partie de la mission sociale qu'on s'est fixée.
Et c'est génial parce que du coup vous voyez aussi, parce que si vous le faites, c'est aussi en termes d'entreprise que vous voyez bien que ça fonctionne, que ça a un effet sur l'activation, j'imagine.
Complètement.
En plus, c'est-à-dire qu'il y a le sens au cœur du fait d'avoir dit nous, on décide d'investir là-dessus. Peut-être que d'autres auraient regardé un tableau Excel et auraient dit c'est pas forcément le plus malin aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire, plus tech, plus automatisé. Nous, on choisit d'investir dans de l'humain, dans une grosse équipe de 25 personnes sur 70 là-dessus. Et ça marche, en fait, derrière, en plus.
Oui, tout à fait. Et en fait, je pense que c'est très rassurant pour les associations. Parce que comme je le disais, l'approche numérique n'est pas forcément quelque chose qui est très ancré dans leur structure. Et donc là, de pouvoir avoir des humains au téléphone qui vont être disponibles, répondre au téléphone, leur expliquer. En fait, je pense que ça enlève aussi un petit peu de la méfiance qu'elles peuvent avoir vis-à-vis du numérique. Et puis quand même, on a une solution de paiement. Donc les associations vont collecter par notre intermédiaire, vont recueillir des sommes qui sont importantes. Donc la notion de confiance, en fait, elle est primordiale dans notre activité. Et ça passe aussi par la relation humaine. Et après, c'est très précieux pour nous, effectivement, parce que plus on accompagne les associations, plus on voit que elles vont se saisir de nos outils, elles vont l'utiliser, et donc in fine, on s'y retrouve aussi en termes de modèle économique, mais aussi ça nous permet de rester en fait très proche de ce tissu associatif, et on n'a pas simplement des retours écrits ou des scores qui peuvent nous mettre sur des notes, mais on a aussi tous les échanges quotidiens qu'on a avec les associations et qui nous permettent de rester vraiment très connectés. Et on l'a vu, là, ça a été d'autant plus important pendant la crise du Covid.
Oui, ce que j'allais dire, c'est que j'ai demandé ça. Comment vous avez vu le secteur impacté par cette crise-là? Parce que vous êtes au cœur du digital, donc de solutions qui sont là.
Qui ont pu répondre à certaines problématiques qu'elles ont rencontrées. Mais en fait, nous, dès le début, donc quand a été annoncé le premier confinement, en fait, on s'est tous dit, on a réuni toute l'équipe, un petit peu déjà pour s'organiser sur comment on allait fonctionner. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour les assos? Et on s'est dit, première semaine, en fait, on écoute Et on essaye de recueillir et de comprendre quels sont les besoins des associations dans cette période-là. Et on n'écarte aucune possibilité d'action. Ouais. Et c'est vraiment le message qui a été diffusé dans toutes les équipes. Et en fait, on a identifié, donc très vite, elles nous ont fait part des problématiques juste de comment on continue à travailler, sachant ouais. qu'elles n'avaient pas d'outils collaboratifs, elles ne connaissaient pas les systèmes de visio, elles n'avaient pas de Google Drive ou de Dropbox ou d'endroit pour partager les docs. Et donc, du coup, sur les premières semaines, on a mis en place des formations, mais vraiment, voilà, comment on collabore, comment on continue à travailler à distance. Et c'est assez impressionnant parce que en quelques semaines, je crois sur 6 semaines, on a formé 8000 associations. Donc on faisait des webinaires de formation où on pouvait avoir jusqu'à 300, 400 associations qui étaient présents par webinaire. Et donc on en a fait énormément sur toute la période. Et puis ensuite, l'autre besoin qu'elles nous ont partagé, c'est toutes les associations qui répondaient à l'urgence, et notamment dans le soutien aux personnes en situation de grande précarité, qui ont vu les files d'attente se rallonger dans les distributions alimentaires, qui là aussi ont eu des fonctionnements qui ont été assez perturbés parce que beaucoup de ces organisations, je pense aux Secours Populaires, aux antennes de la Banque Alimentaire, vivent grâce à l'engagement des bénévoles. Et parmi leurs bénévoles, c'est beaucoup de retraités. Et donc, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de bénévoles qui n'ont pas pu venir, hein, qui n'ont pas pu se rendre sur place. Et donc, elles ont dû revoir leur fonctionnement. Et en parallèle, elles voyaient qu'il y avait de plus en plus de bénéficiaires qui venaient toquer à la porte. Et donc là, beaucoup ont mis en place des collectes d'urgence financières pour pouvoir justement adresser ces différents enjeux. Et donc, on a voulu les accompagner dans ces démarches-là. Et on s'est allié pour ça à d'autres acteurs. Et donc, on a créé une plateforme commune qui s'appelait doncoronavirus.org et sur lequel on a pu faire aussi pas mal de communication, de presse pour la faire connaître auprès du grand public. Et on a lancé ça avec Ulule, avec KissKissBankBank, avec GiveExpert et avec tous les acteurs en fait, qui avaient ces collectes d'urgence et ces collectes solidaires sur leur plateforme, dans le but de pouvoir proposer au grand public et notamment une approche géolocalisée, parce qu'on a vu qu'il y avait une attention aussi plus forte qui était portée au local, un désir de soutenir ses voisins, son quartier. Et donc, on a référencé sur cette plateforme toutes les collectes qui se menaient dans les associations et qui avaient besoin du soutien du grand public. Et cette initiative a permis de collecter plusieurs dizaines de millions d'euros sur la période. Énorme. Et donc, on a vu un véritable élan de générosité à ce moment-là. Et donc, on a cherché là aussi à pouvoir drainer un maximum aussi de soutien vis-à-vis de ces associations qui en avaient besoin.
Et ce que j'entends beaucoup en fait, dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est que vous avez une capacité naturelle à être quand même à l'écoute. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très théorique dans le digital, de dire il faut interviewer ses clients, prendre des insights, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous, c'est naturellement là depuis le début et qu'à chaque fois, c'est assez fort de dire, vous, la première semaine, vous avez écouté. Je retiens vraiment ça, tu vois, on verra quels conseils tu nous donnes à la fin de notre échange. Mais moi, je retiens vraiment ça. Nous, on a pris une semaine pour écouter dans une phase de crise où tout le monde s'est un peu paniqué, a papillonné pour voir comment faire. De dire, nous, on a écouté, je trouve ça, pendant une semaine. Quand tu as une entreprise avec quand même plusieurs dizaines de collaborateurs et tout, je me dis, tiens, c'est inspirant. En tout cas, je pense que ça inspirera les auditeurs.
Oui, et je pense que je n'aurais pas meilleur conseil à donner. Et qui est... effectivement, on s'est retrouvés en fait, au terme de cette semaine-là. Et en fait, là, toutes les équipes sont revenues en disant « Ok, nous, on a identifié ça, 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 etc. » Et là, on s'est dit « Ok, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on peut avoir aussi le plus d'impact ? Qu'est-ce qu'on sait faire ?» Et c'est là, du coup, on a décidé ensuite des actions qu'on a pu mettre en place. Et ça a été très mobilisateur pour l'équipe. Et je pense que tous, à ce moment-là, on a été assez... bouleversée par ce qui se passait et le fait de pouvoir être utile à ce moment-là, de savoir que ce qu'on faisait avait de l'impact, ça a été aussi quelque chose qui a permis à l'équipe de tenir et de bien vivre en fait aussi cette période-là. Et effectivement, et encore aujourd'hui, pour l'anecdote, je lis quasiment tous les jours ce qui arrive au support client. les retours des utilisateurs.
Donc, je vais te demander justement.
Okay, je ne dis pas tout, mais tous les jours, je vais en lire je sais pas, 10 ou 15 parce que je pense que c'est fondamental de rester très en ligne, en fait, très aligné avec les personnes et les acteurs pour lesquels on fait ce qu'on fait. Parce que sinon, le risque, c'est un moment de regarder que des tableaux Excel de chiffres et en fait de perdre complètement la réalité qu'il y a derrière et ce que pensent véritablement, ce que disent les gens. On a aussi un petit peu organiser ça en interne. On a mis en place un programme pour tous les collaborateurs où on encourage chacun chaque mois d'aller 2 heures avec l'équipe accompagnement et de prendre le téléphone. Parce que c'est aussi très différent entre lire ce qu'on peut voir sur les mails et vraiment parler aux personnes. Et donc, moi, je m'attache à le faire. C'était un peu plus compliqué avec le confinement, mais en tout cas très régulièrement, parce qu'en fait, déjà, ça me réénergise parce que j'ai les associations au téléphone et puis on rigole et puis elles me racontent leurs projets et je comprends mieux leurs besoins et je leur pose des questions sur qu'est-ce qu'elles pensent de tel ou tel sujet. J'essaie de sentir un petit peu quelle est leur réalité. Je pense que c'est vraiment fondamental.
Ah oui, non, mais c'est clair.
Et puis, ça nous rend plus pertinents et c'est aussi pour ça qu'on se lève le matin. Donc en fait, c'est aussi un moyen d'entretenir cette motivation parce que sinon, au départ, et notamment quand tu étais là, on était beaucoup en contact avec les assos, etc. Ouais. Au bout d'un moment, l'entreprise grandit, c'est moins le cas dans le quotidien. Et en fait, moi, je sais que j'en ai besoin pour me reconnecter. Et toujours quand je sors de ces sessions de 2 heures avec l'équipe accompagnement, j'ai le sourire et je me dis « Ok, voilà, c'est pour ça que je
sais pourquoi je fais ça, quoi. Génial. Et donc, du coup, tu trouves la place, et c'est hyper inspirant aussi, tu trouves la place et tu gardes même cette place dans ta vie de directrice, enfin de présidente de l'entreprise, quoi. Avec tous les sujets qu'une telle fonction te demande, quoi. Je vois le temps qui défile et j'ai encore juste quelques petites questions. Même si on a quand même abordé la plupart des sujets que je voulais aborder avec toi, je me demande quand même c'est quoi là justement avec ce contexte, avec le secteur associatif. J'ai vu que vous avez fait un peu un appel à l'aide ou en tout cas un appel à la vigilance par rapport à quel point ce secteur était touché par la crise sanitaire. C'est quoi là les défis que vous avez à venir pour 2021 et peut-être 2022? Comment vous voyez naviguer le bateau LOASO dans cette grande période.
Alors effectivement, on est très préoccupé par la situation et par l'impact que ça a pour les structures associatives. En fait, sur l'année 2020, on a vu qu'il y a eu beaucoup de solidarité au rendez-vous. Je pense que 2020 va être une année beaucoup plus dangereuse pour la pérennité de beaucoup de structures. Nombreuses sont inquiètes sur leur capacité en fait à tenir. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'associations sont en sommeil. Et espèrent pouvoir mener des actions en 2021 qui leur permettront de perdurer dans le temps. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu vis-à-vis de la pérennité des acteurs. On voit qu'il y a du renouveau, hein. Je pense que si le Covid nous a tous forcés à évoluer très vite de manière assez radicale. Et donc, on voit aussi que les associations se réinventent et vont mettre en place de nouvelles actions. On l'a vu là sur tout ce qui peut se dérouler en ligne, aussi sur la manière de se financer, on le voit. Nous, on a une opération en fin d'année avec les sapeurs-pompiers, donc toutes les amicales de sapeurs-pompiers. Il faut savoir qu'il y a, lié à toutes les casernes de pompiers en France, il y a des amicales, donc ce sont des associations qui œuvrent un peu pour toute l'action sociale autour de la caserne, qui peut être d'organiser des choses pour les enfants, de pouvoir venir en soutien par moment à des familles dans le besoin. Ils vendent les calendriers chaque année, qui sont des sources de revenus qui sont quand même hyper importantes pour ces amicales. Ils n'ont pas pu le faire en 2020, donc ils ont vendu leur calendrier en ligne sur Eloasso pour plusieurs centaines d'entre elles, et ça a aussi très bien fonctionné. Donc on voit que les associations sont en train de changer leurs pratiques et d'essayer de trouver de nouveaux moyens de pouvoir se financer pour continuer à mener les actions, parce que les besoins sont toujours là, et les besoins ne vont faire que se renforcer aussi à l'aune de la crise et de l'impact économique qu'elle a. Et après, donc, nous, on a toujours géré cet enjeu d'écoute parce qu'on ne sait pas encore tout à fait de quoi l'année sera faite. Et en fait, on essaye, en étant au plus près des associations, de pouvoir aussi orienter, nous, les actions qu'on met en place. Typiquement, avant le Covid, nous, l'outil qui était le plus utilisé sur Hello Asso et qui assurait voilà, une grande partie aussi de nos revenus, c'était la billetterie en ligne. Ouais. Donc, ça a été aussi un choc au moment du Covid parce que ça s'est complètement arrêté et on voit qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des outils qui ont pu se développer très fortement. On voit émerger beaucoup de tombolas en ligne, par exemple, et qui viennent offrir aux associations d'autres possibilités de collecte quand faire des événements n'est pas possible. Et donc, nous, on souhaite continuer, accompagner les innovations, en tout cas les évolutions d'usage qui vont se mettre en place dans le secteur associatif, continuer aussi à être en soutien aux assos. On a créé typiquement pendant le premier confinement aussi un groupe Facebook d'entraide entre associations et en fait qui aujourd'hui est très actif. On a plus de 3000 associations qui sont dessus, qui se partagent des conseils, qui s'entraident. Et en fait, je pense que dans ces moments-là, dans les moments qu'on vit, en fait, le plus gros risque, c'est l'isolement, quoi. C'est de se sentir, on est déjà un peu tout seul, chacun chez soi, mais de pouvoir avoir des communautés autour de nous, avec qui partager, avec qui aussi se remonter un petit peu le moral quand on est un petit peu déprimé par tout ce qui se passe.
Et c'est eux qui modèrent ou c'est vous d'ailleurs là-dessus? Est-ce que vous avez un animateur? C'est eux.
Aujourd'hui, c'est nous qui sommes encore gérés officiellement les administrateurs, mais on intervient quasiment pas. Dans le groupe, aujourd'hui, les associations se partagent des conseils, des questions, des bons plans. Ça fonctionne super bien et je pense que ce groupe a été un vrai soutien pour beaucoup d'associations parce que elles ont des problématiques qui sont proches, quoi, sur qu'est-ce qu'on fait quand les cours sont annulés, est-ce qu'on rembourse les cotisations, est-ce qu'on rembourse pas, comment vous l'avez fait, enfin voilà, elles ont toutes eu aussi des difficultés similaires auxquelles elles ont été confrontées et on continue aussi beaucoup cette année à investir sur nos outils, à continuer à développer les outils numériques. On voit que ça met en lumière des nouveaux besoins des associations et donc on va chercher toujours à voir comment on peut leur permettre de se financer. Et un des axes aussi là qu'on poursuit, c'est de voir comment on peut les aider à se faire connaître et on commence à travailler notamment en partenariat avec des médias pour pouvoir apporter aussi plus de visibilité à tous les super projets associatifs qu'on voit passer sur Hello Asso.
Génial. Parmi mes toutes dernières questions, parce qu'on a vu le conseil, donc je pense que je ne vais pas te reposer cette question-là. Est-ce que tu peux me dire quand même comment vous mesurez votre impact? Est-ce que ça passe par le nombre de dons, en fait? Est-ce que c'est complètement lié au modèle économique ou est-ce que vous avez d'autres mesures?
Alors, c'est un sujet qu'on lance, de manière assez structurante là sur 2021. En fait, aujourd'hui, effectivement, on regarde beaucoup ce qui se passe pour les associations qui utilisent Hello Asso. Donc, depuis notre création, on a collecté pas très loin de 400 millions d'euros pour le tissu associatif. Donc, je disais, il y a un peu plus de 150 000 associations qui sont présentes et qui bénéficient de ces outils. Et là, on essaye de lancer des recherches pour aller plus loin, pour voir concrètement, et notamment à l'aune de la crise aussi. En fait, nous, on a une position qui est qu'on voit se passer beaucoup de choses dans le secteur associatif. Donc, on essaye de regarder plus précisément dans quel secteur, pour quelle typologie de projet, et de pouvoir avoir des analyses par rapport à ça. Et après, on s'intéresse aussi beaucoup à l'impact qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, et plutôt de limiter notre impact négatif. Et là, on a intégré un programme qui s'appelle Leaders for Climate Action et qui réunit pas mal d'entreprises tech, donc c'est uniquement de la tech, au niveau européen, avec un engagement de réduire son impact carbone. Il faut savoir que le numérique est quand même très, très pollueur. Réduire d'une part et compenser d'autre part. Et c'est notamment, il va y avoir un point d'orgue là au mois d'avril, où ce sera la Climate Week, et on va essayer aussi de pouvoir là aussi sensibiliser en fait les acteurs qu'on accompagne, les associations à tous ces enjeux d'impact carbone. Et après, donc là, on lance un vaste chantier de mesures d'impact 360, et bien qu'aujourd'hui le montant collecté, le montant qu'on a permis au secteur associatif de collecter, restait notre premier indicateur sur cette question d'impact social.
Ok, et vous êtes en train d'élargir, très clair et hyper intéressant en plus. Il me reste deux petites questions. J'avais envie quand même qu'on parle de la Fondation des Femmes une petite minute, mais je vois le temps qui file. Donc, est-ce que tu en as le temps, en fait ? Est-ce que tu as 2 minutes pour juste parler de cette action et du fait que tu as nominé, une DG, enfin, vous avez nominé une DG féminine, donc vous êtes deux femmes à la tête de cette entreprise. Je trouvais ça hyper chouette quand même d'aborder ce sujet, surtout que j'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps avec Emmanuel Larocque de Social Builder qui est sur comment il est important que les femmes aillent dans le numérique aussi pour leur place dans la société. Donc je voulais bien peut-être une petite réaction sinon de ta part, si tu as ces 2 minutes.
Et oui, effectivement, moi je suis engagée depuis maintenant plusieurs années sur l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'ai participé à la création de la Fondation des Femmes en 2015, qui a été lancée par Anne-Cécile Méfer, et qui, c'est un sujet qui résonne assez fortement. Je pense que en tant que femme jeune dans la tech, j'ai été confrontée au sexisme ordinaire. Des souvenirs de réunions, étant la seule femme, quelqu'un évoque un café, tout le monde me regarde comme si c'était une évidence que j'allais aller les chercher. Et puis ça, c'est la partie mignonne, et puis après il y a la partie moins mignonne aussi. Après j'étais assez sensible, ce qui a provoqué la création de la Fondation des Femmes, c'était aussi l'idée de se dire qu'il y a énormément d'associations et qui agissent aujourd'hui, que ce soit pour faire de la sensibilisation, pour pouvoir prévenir les violences, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, pour pouvoir s'assurer aussi que les droits des femmes sont respectés partout. Et ces associations ont rencontré, comme beaucoup d'associations, des problèmes de financement. Donc l'objectif de la Fondation des Femmes est vraiment de pouvoir lever des fonds pour venir en soutien à ces associations qui agissent un petit peu partout, et je suis ravie de continuer à m'y engager assez fortement. Et effectivement, après, il faut balayer devant sa porte, et chez l'OASO, on cherche à être exemplaire sur ce sujet-là. Donc, on a mis en place un certain nombre de mesures. Effectivement, tu le disais, la directrice générale de l'OASO est une femme, ce qui rend notre direction à deux femmes assez singulière. Je souhaiterais que ça ne le soit pas et que ça puisse aussi s'intégrer dans une norme, parce que combien de startups sont dirigées par deux hommes. On en voit de plus en plus, et tant mieux. Et après, vis-à-vis de nos collaborateurs, on a notamment mis en place récemment le Parental Act. Donc, c'est le fait d'allonger le congé paternité. Parce qu'en fait, quand on parle d'égalité professionnelle et d'égalité au travail, l'arrivée d'un enfant est à peu près le moment où on constate qu'il y a un décrochage en fait dans les carrières entre les hommes et les femmes, il peut exister encore des comportements où des managers vont privilégier la promotion d'un homme puisqu'il ne représente pas, ce risque d'absence lié à la maternité, alors que si hommes et femmes ont le même congé suite à l'arrivée d'un enfant, ça gomme complètement cette approche dans la promotion. Oui. Donc pour moi, le congé paternité, c'est un levier très fort d'égalité professionnelle, et c'est aussi un levier très fort d'égalité à la maison, puisque dans les premiers mois suite à l'arrivée d'un enfant, c'est là aussi où se prennent les habitudes, les réflexes, etc. Et si on est deux à ce moment-là à se partager aussi toutes les tâches domestiques qui sont liées aux enfants, c'est aussi des habitudes ensuite qui restent. Et puis après, on suit ça de près. On a organisé en interne aussi une quinzaine de l'égalité. On tâche de faire progresser chaque année notre index égalité femmes-hommes, d'avoir une parité. Aujourd'hui, le comité de direction est paritaire, donc 3 hommes et 3 femmes. Et c'est vrai qu'on est assez attaché à ce sujet-là, et qu'on accompagne beaucoup, et j'irai spécifiquement parfois aussi les femmes chez l'OASO pour s'assurer qu'il n'y a aucun frein à leur développement.
Oui, qui peut aussi être psychologique des fois. Hyper intéressant, trop bien. Merci, je suis très contente d'avoir posé la question quand même.
Avec plaisir, je pourrais t'en parler pendant une autre heure.
Mais non, mais c'est pour ça, c'est encore un autre sujet. C'est pour ça, on parle de l'OASO aujourd'hui, mais c'était dommage de ne pas quand même parler de la Fondation des Femmes et de cette implication que tu as toi et qui forcément rayonne sur l'OASO en fait. Donc, Eh ben, écoute, mes deux petites dernières questions. Est-ce que tu peux me parler d'une musique ou d'un film qui illustre ta vision à toi du business positif?
Oui, alors c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Les Invisibles. Les Invisibles, c'est un film donc, qui suit une association qui accueille des femmes en très grande précarité.
J'ai adoré.
Et où on voit, je trouve, toute la débrouillardise qu'il existe dans les associations. On voit aussi à quel point les personnes, les bénévoles qui s'en occupent déplacent des montagnes et consacrent une énergie énorme à la mission qui les anime. C'est peut-être un peu plus loin du business, mais je trouve que ce film gagne à être vu parce que ça montre vraiment ce que vivent beaucoup d'assos et comment aussi elles gèrent des projets qui sont des projets d'envergure, hein, de la même manière que des entreprises, hein, sauf qu'elles n'ont pas géré le même modèle ou la même structure.
Le parallèle est hyper intéressant parce que effectivement, c'est dans le milieu associatif, comme tu disais, il y a une sorte d'engagement qui est dingue et ça se voit vraiment dans ce film-là. Et en fait, c'est aussi un petit peu la quête de beaucoup de gens aujourd'hui quand on parle de la quête de sens des collaborateurs, des changements de vie, de la reconversion professionnelle. Il y a aussi cette envie d'être animé à nouveau, d'avoir une flamme pour ce qu'on fait et pour ce pourquoi on se lève le matin. Et c'est vrai que ça, on le voit dans ce film, en fait, à travers l'action associative. Carrément. Il est top, en plus. C'est que j'ai adoré ça. Et en plus, il est drôle. Donc, du coup,
Audrey Lamy joue
beaucoup. Elle est magique. toute dernière question. Est-ce que tu aurais un acteur à me recommander qui serait intéressant de podcaster sur cette thématique de l'impact positif et du business?
Oui, il y a un acteur que je trouve assez intéressant, hein, qui a une évolution hyper intéressante, c'est change.org, et je te recommande d'interviewer Sarah Durieux, la directrice France, parce que Change a beaucoup évolué dans son modèle, et je trouve qu'ils se sont posé beaucoup de questions sur justement comment c'est une entreprise qui s'est montée pour donner du pouvoir d'agir et permettre aux personnes de pouvoir mener des campagnes de mobilisation et qui a ensuite eu beaucoup d'évolution dans son modèle économique notamment pour arriver là à une vision qui repose également sur du don. Mais je trouve que le chemin qu'ils ont fait est assez intéressant. Et puis je trouve que Sarah Durieux fait aussi un travail assez incroyable pour démocratiser justement la capacité que chacun et chacune d'entre nous avons à pouvoir prendre action par rapport au sujet ou aux causes qui nous interpellent.
Ok, génial. Je vais aller regarder ça carrément. Bon, un grand merci pour tout cet échange et tous ces partages d'expériences que tu nous as fait pendant cette heure au final. Je te dis à très bientôt et puis on mettra les liens pour pouvoir te suivre sur LinkedIn et puis suivre Hello Asso et puis pour les assos, je sais qu'il y a des assos qui écoutent le podcast, si elles ne sont pas déjà référencées parce qu'il y en a quand même pas mal qui utilisent déjà Hello Asso, mais elles pourront trouver le lien dans l'article.
Top, merci beaucoup. Merci Mélodie. À bientôt.
Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcasts. À très vite !